Bonjour Sandra.
C'est comme ça qu'on salue l'Église, si j'ai bien compris. Très heureux de vous retrouver. La fois dernière où j'étais venu, la salle était encore dans l'autre sens. Donc soit les travaux sont allés vite, soit ça fait longtemps que je ne suis pas venu, mais je crois que c'est plutôt la deuxième situation. Donc très, très heureux de vous rejoindre. Effectivement, je ne suis pas venu avec la famille. Nous étions déjà absents, ça fait le troisième dimanche que je ne suis pas dans mon église à Cray. Et en fait, pour Annick et trois des autres enfants, c'était important aussi d'être dans l'église, d'autant plus qu'ils accompagnent avec les instruments. Ça fait un peu sec, des cultes sans musique. C'est possible, hein, mais c'est pas pareil. Le thème des congrès CEF pour 2015, ça sera « La vie par l'esprit ». Vous l'avez peut-être déjà lu dans les informations qui ont circulé. Et en fait, c'est un peu en méditant sur cette question sur la vie par l'esprit que je vous propose une réflexion autour d'un texte. Mais avant de lire le texte, j'aimerais simplement faire deux portraits tout à fait fictifs de deux personnes. La première personne, c'est Damien. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de Damien dans la salle. En tout cas, tout ce que je vais dire dans ce qui suit est purement fictif et toute ressemblance. Enfin, vous connaissez la phrase, hein. Damien, c'est un jeune homme. Il a 23, 24 ans. Il fait des études. Un peu chétif, un peu timide. Pour Damien, engager sa volonté, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il est du genre procrastinateur. Vous savez ce que c'est ? C'est remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est compliqué pour Damien de rendre sa copie en temps et en heure. Damien aime le Seigneur. Il est dans une église, ça pourrait être Sonra. Et dans la même église, il y a Albert. Alors là aussi, j'espère qu'il n'y a pas d'Albert dans la salle. Est-ce qu'il y a un Albert dans la salle ? Personne ne répond du coup. Non, a priori, il n'y en a pas. Encore une fois, toute ressemblance avec... Hein, vous connaissez la phrase. Albert, lui, 48 ans de vie avec le Seigneur. C'est le genre de personne qui vous dira qu'il a 1264 victoires au compteur avec le Seigneur. Yes ! Albert, c'est simple. Ce qui le caractérise, pouvoir, c'est vouloir. Vous savez, c'est le genre de personnage qui a un t-shirt avec marqué dessus « La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Vous l'avez déjà vu, ce genre de... Bon, ça en dit long, hein, plein de bonne volonté. Albert, il lit sa Bible au moins une fois dans l'année, tous les jours à 5 heures. 5 heures du matin, bien sûr. Parce que Albert a une force de caractère, une volonté qui est supérieure à la normale. Et quand Albert rencontre Damien, Damien, il est mort. Parce que pour lui, c'est juste impossible d'avoir une volonté aussi forte que celle d'Albert. Dans l'Écriture, ne serait-ce que dans les épîtres du Nouveau Testament, nous avons plus de 200 impératifs, c'est-à-dire 200 expressions qui appellent le chrétien à mettre sa volonté en œuvre pour faire. Par exemple, messieurs, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Pour Albert, c'est pas trop un souci. Parce que pouvoir, c'est vouloir. Pour Damien, il n'est pas encore marié parce qu'il se dit, c'est peut-être mission impossible. Un autre impératif dans l'Écriture, juste pour en citer quelques-uns, cette parole dans l'Épître de Pierre, au premier Épître, chapitre 4, verset 7. Pierre qui dit « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Un autre impératif qui nous appelle à fixer des priorités dans notre vie, à ne pas vivre pour ce qui est superflu, mais pour ce qui est important et qui a de la valeur, en l'occurrence ce que Pierre dit, faites le tri dans vos activités pour avoir du choix pour prier, parce que nous sommes dans la fin des temps. Un impératif. j'en arrive à... J'avais dit plus de 200 impératifs, donc là j'en ai cité deux. Je vais citer le 197e encore. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes ces exhortations, ces impératifs, vous renvoient peut-être à votre propre expérience. Vous songez peut-être à ce que vous désirez dans votre vie avec Christ, mais qui vous est inatteignable. Vous avez essayé à maintes reprises de mettre ces impératifs en pratique, parce que l'on sait que ces choses-là sont bonnes, mais vous êtes découragé, parce que vous tombez toujours dans les mêmes travers et cela vous semble impossible d'y arriver. Vous souhaiteriez aller plus loin avec le Seigneur, mais vous êtes frustré, car constamment vous éprouvez la limite de votre volonté. Comment mettre en œuvre ces impératifs, ces exhortations de l'Écriture ? Comment incliner notre volonté pour répondre avec joie aux commandements de l'Écriture ? Où trouver la force ? Pour Albert, ça ne semble pas trop être un problème. Pour Damien, c'est plus compliqué. Où trouver la force pour obéir à ce que l'Écriture commande ? Et c'est à cette réponse, à cette question, que je vous propose de répondre ce matin par la lecture d'un texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, 5 versets, les versets 5 à 9. Et je lis dans la version du Semeur, Romains, chapitre 8, les versets 5 à 9. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Quelques mots au sujet du texte lui-même que nous venons de lire. D'abord, la plupart des traductions, j'ai lu dans la version du Semeur, parlent de l'homme livré à lui-même. Mais il est fort probable que dans votre traduction, vous avez le mot « chair ». Qu'il est dit l'homme, alors j'ai pas noté exactement tel que c'est introduit, mais c'est selon la chair, pardon, ceux qui vivent selon la chair. Et dans la traduction ceux qui vivent selon la chair, c'est la traduction directe du mot grec sarx qui signifie la chair, mais qui dans les écrits de Paul a un sens bien précis. C'est-à-dire que Paul ne parle pas de la chair humaine, ce que je touche lorsque je saisis mon bras. Mais chez Paul, ceux qui vivent selon la chair, c'est la condition de l'homme qui ne connaît pas Dieu avant sa conversion. C'est le premier sens dans lequel Paul utilise le mot chair. Mais il l'utilise aussi, et c'est le cas dans le texte que nous sommes en train de lire, il utilise aussi, d'ailleurs les deux sens sont présents dans notre texte, pour désigner la tendance qui est encore présente dans l'homme né de nouveau, qui aujourd'hui encore peut agir dans la vie du croyant lorsque le croyant pêche. Et cette tendance, l'homme livré à lui-même, cette tendance qui est en nous, dont nous serons définitivement libérés lorsque nous serons dans la présence de Christ et ultimement dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre qui nous est promis, avec Christ qui habitera au milieu de nous. À ce moment-là, nous ne connaîtrons plus le mal qui peut encore saisir en nous, nous ne connaîtrons plus la chair, les effets de la chair en nous. En fait, nous ne pourrons plus faire le mal. Je ne sais pas si vous imaginez. Il ne nous sera plus possible de pécher. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est quand je peux faire tout ce que je veux, sans pécher, sans déplaire à Dieu. Et dans le texte que nous venons de lire, ces deux sens sont présents. Vous l'avez remarqué, Paul fait la comparaison entre qui ? Entre celui qui est livré à la chair, et la Bible du Semeur traduit l'homme livré à lui-même, l'homme qui ne connaît pas Dieu, et celui qui est habité du Saint-Esprit. L'homme, donc Paul compare ces deux conditions. Quelques mots sur les éléments de comparaison que Paul nous donne dans ce texte. Il parle, je vais commencer par la fin, regardez la fin du verset 9 que nous venons de lire, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas ». Et Paul, nous pouvons déduire le contraire de ce que Paul dit. Du coup, c'est que tout croyant, tous ceux qui appartiennent à Christ, sont habités du Saint-Esprit. Et donc, Paul, dans la comparaison qu'il fait entre l'homme livré à lui-même et celui qui a Christ en lui, fait la comparaison, dans notre texte, entre l'incroyant et le privilège du croyant. Et ce qui est dit de l'incroyant dans ces quelques versets que nous venons de lire, d'une certaine manière, n'est pas vrai pour le croyant. Que nous dit ce texte ? Je le reprends très rapidement. L'homme qui ne connaît pas Dieu, l'incroyant, est livré à la mort. Le privilège du croyant habité par l'Esprit, ce qui est dit au verset 6, a une vie qui conduit à la vie et il connaît la paix. Celui qui ne connaît pas Christ a une vie qui mène à la mort. Il ne peut connaître la paix. Celui qui est à Christ, parce qu'il est habité du Saint-Esprit, connaît la vie et la paix. L'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Ça, c'est la condition de l'incroyant. Et Paul dit qu'il est incapable de se soumettre à la loi de Dieu parce qu'il ne le peut même pas. Comme c'est une comparaison, nous pouvons dire que si le croyant peut se soumettre à la loi de Dieu et faire ce qui plaît à Dieu, en raison du contexte de ce texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est parce qu'il est habité du Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul dit au verset 9, « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livré à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et donc, vous pouvez accomplir la loi de Dieu, les impératifs de notre vie avec Christ. En fait, ce que Paul est en train de dire, seul l'Esprit habite en ceux qui appartiennent à Christ, et c'est une conséquence de la nouvelle naissance, le privilège d'une personne qui confie sa vie à Christ. J'aimerais faire trois remarques à partir de ce texte, parce que ce texte nous pose quelques questions et fonde des constats assez radicaux. Première chose, on ne peut rien attendre de mieux de l'homme livré à lui-même. En fait, à partir de ce que Paul dit de l'incroyant, nous pouvons nous poser la question, que pouvons-nous attendre de bon de la part d'une personne qui ne connaît pas Christ. Et Paul est radical dans ses affirmations. Il est en rébellion, en haine contre Dieu. C'est la condition humaine depuis le jardin d'Éden, depuis que le péché est entré dans le monde. C'est l'homme qui est complètement déconnecté de Dieu. Incapable de se tourner vers lui-même, vers le Seigneur. Livré à son propre pouvoir, l'homme est ce qu'il est. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est en rébellion à Dieu. Et il ressemble bien à ce que Paul décrit dans ces quelques versets que nous venons de lire, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Deuxième constat, deuxième remarque que nous pouvons formuler à partir de ce verset, ce constat est radical de la part de Paul. À cause de la corruption du péché dans sa vie, je le répète, l'homme est incapable de plaire à Dieu. Et il tend vers ce qui lui est naturel, et ce qui lui est naturel, c'est le mal, et de ce fait-là, il ne peut pas tendre vers la perfection qui se trouve en Christ. Il n'est que haine de Dieu. D'ailleurs, quelques versets plus tôt, au chapitre 3, verset 23, le salaire du péché, la conséquence du péché dans la vie de l'homme, c'est la mort. Et dans le même chapitre encore, ce que Paul dit, quand il dit qu'il n'y a personne, pas un juste, pas même un seul, qui cherche Dieu. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'aucune discipline spirituelle ne permet d'obtenir la faveur de Dieu. Aucune œuvre bonne de la part de l'incroyant ne saurait incliner le cœur de Dieu pour obtenir la vie. Je peux être immensément riche et vendre toute ma fortune pour une bonne cause. Cela ne changera rien de ma situation et de mon état à l'égard de Dieu. Et d'ailleurs, vous savez, même des fois, derrière une bonne action philanthropique... Non, je ne vais pas y arriver. Merci. Il n'y a pas toujours une bonne motivation. On peut parfois faire le bien avec de mauvaises intentions. L'humanisme, dont notre société est fortement marquée, l'humanisme, c'est-à-dire avoir foi en l'homme dans sa capacité à travailler à un monde meilleur, trouve dans l'Écriture aucun appui. Au contraire, l'Écriture dit « tous pourris » et pas de salut. Ce que Paul dit encore dans ce texte, c'est que le changement est possible uniquement par une puissance extérieure qui vient entrer dans l'homme, et c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'homme, pour un changement durable et significatif, a besoin de quelque chose qui est extérieur à lui, et que quand cette chose vient en lui, c'est Dieu lui-même, par son esprit, qui vient habiter dans la personne, alors un vrai changement s'opère. C'est ce que le Saint-Esprit produit dans la vie du croyant. Et c'est là que l'homme peut faire ce qui plaît à Dieu. Ce que disait Paul dans notre texte. En fait, ce que dit Paul, c'est qu'en dehors du Saint-Esprit, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, accomplir sa commandement, donc faire sa volonté. Au final, Paul dit deux choses. Il affirme la radicalité de la corruption opérée par le péché dans la vie d'un homme, mais aussi d'autre part, le pendant, c'est la radicalité de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, où là tout devient possible pour plaire à Dieu. Je vous propose un peu d'élargir notre perspective. Ça va, vous êtes les neurones, ça chauffe, vous me suivez, vous voulez une aspirine, c'est bon. En fait, nous pointons ici une question qui est importante. C'est celle de la volonté de l'homme, dans le sens de sa capacité à vouloir une chose. La volonté de l'homme qui est chargé de choisir et de se mettre en action. Quel est le degré de corruption de notre volonté humaine? Ce texte pose la question. Dit différemment, jusqu'à quel pourcent le péché a-t-il corrompu la volonté de l'homme lors de sa chute? Je vais encore le dire d'une manière différente. Est-ce qu'il reste en nous-mêmes, je parle de l'homme qui ne connaît pas Christ, est-ce qu'il reste dans la vie de l'incroyant une part de bonne volonté à partir de laquelle l'homme peut se tourner vers Dieu. Et d'ailleurs, je peux aussi nous poser la question à nous-mêmes. Est-ce qu'il reste dans notre personne une part de bonne volonté à partir de laquelle nous pouvons répondre favorablement aux exigences de la loi de Dieu et faire ce qui plaît à Dieu? Sur quoi nous fondons notre sanctification? Notre sanctification, c'est notre croissance spirituelle. Sur notre volonté? Souvenez-vous de Damien et d'Albert. Cette question est très présente chez les théologiens dès les pères de l'Église. C'est-à-dire que dès le début de l'histoire de l'Église, premier siècle après Jésus-Christ, les premiers théologiens commencent à réfléchir à cette question et aux conséquences de la chute dans la vie de l'homme. Par exemple, je vous donne quelques citations. Un père de l'Église, Chrysostome, dit la chose suivante. « Apportons notre part et Dieu suppléera le reste. » Ça, je pense que Chrysostome aurait pu être un évangélique. Jérôme, un autre père de l'Église, dit « C'est à nous de commencer et à Dieu de parfaire. » En fait, nous avons là deux théologiens qui pensent la même chose, deux affirmations très proches, que nous pouvons entendre dans nos milieux, et c'est un peu, je le résume de la même manière, « Fais ta part et Dieu fera le reste. Si tu veux grandir, il faut bien que tu fasses ta part. » Tout ne peut pas tomber du ciel sur un plateau. On a entendu ça ce matin. Est-ce juste tatin. Or dans la suite. Donc ces deux affirmations, je reprends Chrysostome et Jérôme, partent du principe qu'il existe dans la volonté humaine un substrat, un reste non corrompu, quelque part une bonne inclination qui nous permet encore de faire le bien et de désirer Dieu. C'est ce que dit Chrysostome et Jérôme. Et souvent, c'est ce que l'on peut entendre. Fais ta part et le Seigneur fera la suite. Et cette bonne part, d'une certaine manière, participe donc de manière active dans notre volonté pour nous tourner vers Dieu. Et donc, pourrait participer à notre salut. Il y a au moins deux théologiens qui s'opposent à Chrysostome et à Jérôme, ce sont Calvin et Augustin. Alors, je vous lis, ne vous inquiétez pas, ils disent des choses que je comprends, ce qui est déjà bon signe. Donc ça devrait aussi aller pour vous. Par exemple, saint Augustin dit la chose suivante. Donc ces théologiens débattent entre eux. C'est-à-dire, Augustin va répondre à Jérôme et à Chrysostome, et Calvin fait pareil. En fait, si les citations que je vous mentionne ici sont toutes reprises par Calvin, qui au XVIe siècle, lorsqu'il va voir ce que ceux qui l'ont précédé dit sur le sujet, mentionne Chrysostome, Jérôme, Augustin et leur époux. Augustin dit, après la défaite de la volonté vaincue par le vice, notre nature a perdu sa volonté. Je suppose que vous saisissez la différence par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire Augustin dit que le péché a corrompu la volonté à 100%, notre nature a perdu sa volonté. C'est radical, c'est clair, c'est net, c'est tout le contraire de ce qu'on a dit précédemment, apportons notre part et Dieu suppléera le reste. Calvin, vous connaissez peut-être la bande dessinée Calvin et Hobbes, vous connaissez? C'est de l'humour très fin, alors c'est pas ce Calvin-là, d'accord, c'est un théologien, il faut mentionner les références. Calvin va dans le même sens qu'Augustin, et lui-même reprend une phrase de Bernard de Clairvaux. Ça se complique, mais c'est simplement pour dire qu'Augustin, Bernard de Clairvaux et Calvin disent la même chose. Bernard de Clairvaux dit la chose suivante. Vouloir est présent dans tous les êtres humains, croyants et incroyants. Vouloir le bien est le résultat d'un amendement. Amendement, quelque chose qui a été ajouté à l'homme et qui est extérieur. Tandis que vouloir le mal est de notre fait. Vouloir le mal est le fait d'une nature corrompue. Vouloir le bien est une grâce de Dieu. Que disent ces théologiens? ma volonté livrée à moi-même ne peut faire que le mal. Mais lorsque je fais le bien, cela est le fruit de quelque chose qui m'est extérieur, c'est une grâce de Dieu, c'est uniquement une grâce que Dieu me fait en inclinant ma volonté à faire le bien. Et il me semble que c'est ici une juste compréhension de l'Écriture. À cause du péché, depuis la chute dans le jardin d'Éden, il ne reste rien d'intact, rien de pur, rien de bon. Même dans notre volonté humaine est pourrie, elle est corrompue. Et c'est la conséquence de notre péché. C'est radical, Paul le dit en Romains 10, il le dit aussi en Romains 1, il le dit aussi en Romains 3. Dans l'Épître aux Galates, lorsque l'Écriture mentionne ce que la volonté humaine corrompue produit, hein, l'homme livré à lui-même, là encore une fois, vivre selon la chair, Galates 5, et vous avez toute la liste qui va avec, et ce ne sont pas des qualités, dit que c'est là la conséquence de l'homme livré à lui-même, mais le fruit de l'Esprit. Et non pas le fruit de la bonne volonté, non pas le fruit de la bonne spirituelle, la bonne discipline spirituelle, non pas tous les efforts d'Albert. Lorsque Paul mentionne tout le bien qu'un homme, qu'un croyant, est en mesure de produire, il dit que c'est quoi? C'est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Chaque fois que l'Écriture mentionne la volonté humaine, la volonté du croyant, parce qu'il faut la mettre en œuvre, c'est toujours dans le cadre d'une volonté transformée par le Saint-Esprit, et jamais dans le cadre d'une volonté qui s'appuierait sur ses propres forces, parce que elle, cette volonté-là, est corrompue et pourrie. Petite remarque. Que dire de l'incroyant qui fait le bien ? On vit quand même dans un monde où, heureusement, le bien existe même en dehors de nos églises. Ceci étant dit, nos églises ne sont pas exemptes du mal. C'est bien d'en rire. Mais c'est triste aussi. Selon l'Écriture, le fait que le bien soit encore possible dans ce monde, même pour l'incroyant, est une grâce de Dieu qui est commune à tous les hommes. La chute dans le jardin d'Éden a eu des effets désastreux. Le péché est entré dans le monde, le mal a corrompu le monde, la nature. Il n'y a pas que l'homme qui est corrompu par le péché. Mais Dieu, dans sa grâce, permet que la vie soit encore possible et tout le bien qui se fait dans ce monde et qui rend la vie encore possible est le fait d'une grâce continue et perpétuelle de Dieu. Parce qu'il est le Créateur et que nous sommes sa création. Et que si Dieu s'était complètement retiré après la chute dans le jardin d'Éden, la vie serait juste devenue impossible sur cette terre. Donc Dieu continue d'intervenir de manière constante et parfaite dans ce monde en rendant encore la vie possible. Et lorsque l'incroyant fait le bien, capable d'être animé de bons sentiments, capable de découvrir, d'aimer son vis-à-vis, de faire de belles choses, d'être créateur, l'activité humaine, l'activité économique, la bonne activité économique, c'est un autre débat, je ne vais pas aller plus loin, mais toutes ces choses sont le fait de la grâce commune de Dieu. Nous ne pouvons pas construire notre sanctification en dehors de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Envisager notre sanctification, c'est-à-dire notre croissance spirituelle, en se fondant uniquement sur notre volonté, est une folie, un non-sens, parce qu'elle est corrompue, faible et limitée. Et lorsque nous faisons l'expérience du découragement, c'est-à-dire vouloir obéir au Seigneur, et que nous prenons conscience que nous n'y arrivons pas, que nous péchons, que nous repêchons, c'est parce que précisément, nous essayons de le fonder sur notre propre volonté qui ne va pas y arriver. Notre volonté, même elle, a besoin d'être touchée par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Le changement, c'est possible. Un changement durable. Parce que c'est le Saint-Esprit, cet amendement, quelque chose qui lui est extérieur, qui va faire ce que nous sommes absolument incapables de faire. Nous pouvons désirer Dieu, et cela même est déjà le fruit du Saint-Esprit dans notre vie. Nous pouvons désirer Dieu, accomplir sa volonté, sanctifier notre vie, non pas à partir de notre propre volonté, mais de ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est pour ça que Paul dit, vous, au contraire, vous n'êtes pas livré à vous-même, mais vous dépendez du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit habite en vous. Ailleurs, Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Et dans ces deux versets, vous avez les deux choses. La première, travaillez à votre salut. Un appel à mettre sa volonté en œuvre. Mais que dit le verset qui suit? C'est Christ lui-même, Dieu lui-même, qui produit en nous à la fois le vouloir et le pouvoir. Philippiens 1, verset 12 et suivant. Lorsque la Bible invite le croyant à mettre sa volonté en œuvre, elle l'envisage toujours à partir de l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Et c'est ici un signe de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du croyant. On peut tirer une petite conclusion. La voici. Lorsque je fais le mal, je suis 100% responsable de mes actes. Lorsque je fais le bien, je suis 100% irresponsable. Parce que c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et je ne peux pas m'en glorifier. C'est une grâce. Pierre dira, dans sa deuxième épître, que par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. C'est pas beau, ça? Christ nous donne tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à sa personne. Tout est grâce. Je reprends Augustin qui dit, « Quand chacun reconnaît qu'il n'est rien par lui-même, et qu'il ne peut pas se venir en aide, il est désarmé. Il est nécessaire que les armes de l'impiété soient brisées, rompues et brûlées, et que tu demeures désarmé, ne trouvant nulle aide ailleurs en toi. Plus tu es faible, mieux Dieu t'accueille. » Calvin va dans le même sens. Lorsque le Seigneur nous convertit, c'est comme si on transformait une pierre en chair. Tout ce qui relève de notre propre volonté est aboli. Et ce qui prend place vient de Dieu. La volonté est abolie, non pas en tant que volonté, car lors de la conversion de l'homme, ce qui appartient à la première nature demeure. Calvin dit que la volonté entre l'incroyant et le croyant, elle demeure, parce que c'est quelque chose qui appartient à notre nature, la volonté. Mais cette volonté est faite nouvelle, non pas pour commencer à être volonté, mais pour être convertie de mauvaise en bonne. Et c'est Dieu qui accomplit cela, par son Saint-Esprit qui habite en nous. Application pratique pour terminer. Avez-vous saisi que pour plaire à Dieu, cela n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Si vous luttez par vos propres efforts en vous disant « cette fois-ci je vais arriver », vous connaîtrez encore le découragement. Récemment, j'ai discuté avec un jeune homme qui est venu me voir à la fin d'une discussion. Un jeune homme bien sous toute couture, né dans une famille chrétienne, marié, engagé dans son église, futur responsable. Et en discutant avec lui, il me dit « Tu sais, Eric, je prends conscience que toute ma vie a été fondée sur ma propre volonté. » C'est-à-dire qu'il voyait la sanctification possible parce que, ayant grandi dans ce milieu évangélique, ayant eu connaissance de la volonté de Dieu dès son plus jeune âge, c'est-à-dire de l'Écriture, il suffisait de faire pour être. Et il prenait conscience que toute sa vie était simplement fondée sur sa propre volonté. Quels sont les signes d'une personne qui fonde sa spiritualité sur sa propre volonté? Et je parle ici d'un croyant. Souvent, c'est l'absence de compassion à l'égard de ses frères et sœurs. Reprenez Albert. Pour Albert, c'est incompréhensible que Damien, c'est un exemple, voilà, ne puisse pas lire sa Bible tous les jours. L'absence de compassion, la difficulté d'accepter que l'autre pêche ou rechute. Le sentiment de fierté, d'être au-dessus de la mêlée. Moi j'y arrive, je suis bon, je suis un bon chrétien. C'est aussi l'idée, et beaucoup plus pernicieuse, que Dieu m'aime parce que je le vaux bien. Et ça c'est quelque chose qui nous guette. Penser que notre spiritualité, notre piété est quelque chose qui nous permet d'obtenir la faveur et la bonne appréciation de Dieu. Mais cette pensée, elle est toxique, elle est corrompue. Ces personnes ont souvent tendance à faire continuellement le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre les bons chrétiens et les mauvais chrétiens. Bible en main, bien sûr. Et dans le fond, ces croyants, ce sont ceux que Paul décrit dans les chapitres 1 à 8 de l'Épître aux Romains, ou en Galates. Ils veulent accomplir la loi de Dieu par leur propre force. À Galates, c'était la question de la circoncision. C'est nécessaire pour le salut. Mais ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Si vous êtes conscient de votre péché, comme le disait tout à l'heure Augustin, conscient de votre limite, de vos échecs répétés, conscient de votre incapacité à vous changer par vous-même, alors vous êtes sur le bon chemin. Alors vous êtes le bon candidat à la grâce de Dieu. Le bon candidat en qui Dieu va pouvoir opérer le changement durable et solide par son esprit. Nous pourrions prendre les fruits de l'esprit qui sont mentionnés dans Galates chapitre 5 à partir de verset 21. L'amour. Comment être un mari aimant, une épouse aimante, un parent aimant avec ses enfants? Par votre propre volonté, si vous êtes en couple, père de famille, parent, moi je suis conscient de mes limites. Même dans mon amour à l'égard de mon épouse. Et si cela ne s'appuie que sur ma propre volonté, on n'ira pas très loin. La joie, comment être joyeux? Je ne dis pas jouer aux croyants joyeux, mais la joie profonde que Dieu donne. Comment être joyeux lorsqu'on connaît l'épreuve? Lorsqu'on est de tendance pessimiste? Et que l'on voit la vie plutôt en noir, tout en étant chrétien. Par où le changement peut-il venir? Galates nous dit, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Encore la paix, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses où Paul nous dit, possible, à condition d'avoir une volonté transformée par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la condition du croyant. Ceux qui ne connaissent, n'appartiennent pas à Christ, n'ont pas le Saint-Esprit. La manière dont Paul termine les versets qu'on a eus tout à l'heure. Vous voulez vivre par l'Esprit? Je vous pose une question. Quel est le domaine dans lequel vous avez conscience qu'il vous faut progresser? Le domaine dans lequel vous savez qu'il y a du boulot à faire? Le domaine dans lequel vous savez, ça c'est pas très jojo, c'est des choses qui sont pas belles. Mais je sais que je n'y arrive pas. En fait, la solution, elle est au pied de la croix. Et c'est par cette prière que je vous invite à terminer. Je connais ma misère, mon incapacité à faire ce que tu désires, Seigneur. Ce que tu désires, je n'ai pas la force de le mettre en œuvre dans ma vie. Ce que tu attends de moi, je suis parfaitement incapable de le produire. Mais parce que tu m'as sauvé, parce que tu as pardonné tous mes péchés, à cause de cette vie qui coule de la croix, je sais que tu peux incliner ma volonté par la puissance de ton esprit. Et ainsi, je pourrai te glorifier par mon être, par ma manière d'être, par la possibilité d'être et de faire ce que je suis incapable de faire, livré à moi-même. Est-ce que vous vivez de cette grâce qui découle de cette vie nouvelle que nous avons obtenue en Jésus-Christ? Ce matin, nous avons pris le repas du Seigneur ensemble. C'est un moment où nous nous rappelons de ce que Christ a fait à la croix. Pardonner nos péchés, il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne une vie nouvelle, et dans cette vie nouvelle, celui qui n'appartient pas à Christ n'a pas le Saint-Esprit, nous dit Paul. Mais le contraire est vrai. Celui qui appartient est habité de l'Esprit de Dieu. Et c'est là que tout commence. Et c'est là que se termine aussi ma prédication. Amen.